Le grand entretien. François Bunel.
Quelle école pour demain ? Dès que l'on pose cette question, vous l'avez remarqué, le débat surgit, mais avec de plus en plus de vigueur, voire d'agressivité. La question de l'enseignement est l'une de celles qui divise le plus les Français. Chacun y va de son argument. Je vous propose une pause. Oublions pendant une heure les politiques ministérielles, les bavardages consensuels et donnons la parole à un philosophe et enseignant. La question de l'enseignement, de l'éducation, de la mémoire, de la culture, de la lecture, de la citoyenneté également, est au cœur de ses préoccupations depuis l'époque, les années 70, où il signait avec Pascal Bruckner des livres incisifs rappelant qu'au coin de la rue, il y a l'aventure. Depuis la défaite de la pensée et jusqu'à ce que peut la littérature, eh bien, il a développé ses idées, s'arrêtant longuement sur ce que doit être l'école et l'éducation, notamment, souvenez-vous, dans un petit livre très personnel intitulé « Une voix vient de l'autre rive ». C'était il y a une dizaine d'années et ce livre a provoqué un bel émoi. Depuis, ses adversaires le réduisent un peu facilement à un conservateur, un catastrophiste, ce qui est, si vous me permettez, refuser de le lire avec attention ou alors de l'écouter clairement sur France Culture, par exemple, où tous les samedis matins, il anime l'émission Réplique. L'enseignement, oui, il connaît, il est professeur de littérature et de philosophie à Polytechnique, c'est-à-dire qu'il forme ce qu'on appelle l'élite. Alors que s'ouvre le Salon du Livre de Paris, posons les questions de la transmission, du désir, de l'enseignement, pour qu'il y ait encore des lecteurs dans ce pays d'ici quelques années.
Le grand entretien sur France Inter.
Anna Finkielkraut.
François Bunel. Bonsoir Alain Finkielkraut.
Bonsoir.
Je voudrais commencer par une question très simple, mais je n'ai entendu personne la poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un enseignant ?
Eh bien, je vous répondrai par une citation, si vous me le permettez. J'essaierai de ne pas abuser des références. Mais c'est Peggy, à la fin d'un de ses grands textes, de Jean Coste. Il parle de l'enseignement et il parle de l'instituteur. De l'instituteur. Et il dit, l'instituteur n'est pas le représentant du président du conseil ou d'une majorité, quelle qu'elle soit. Il est le représentant de personnages plus considérables. Il est le représentant des poètes et des artistes et de tous ceux qui ont fait l'humanité. Il est le représentant de la culture. Un enseignant, c'est quelqu'un. Et c'était déjà le cas pour les instituteurs, c'est hussard noir de la République, expression aussi de Peggy. Eh bien, un enseignant, un professeur, c'est quelqu'un qui est là pour cultiver ses élèves. Quand je dis « c'est », je crois qu'il vaudrait mieux que je mette ce verbe à l'imparfait.
C'était.
Oui, c'était. C'était, je crois, on se demande quelle école pour demain. Pour le savoir, il faut faire un bilan, il faut faire un constat. L'école n'est pas en crise, l'école est morte. On scolarisera toujours, on adaptera bien sûr, on spécialisera encore, on épanouira éventuellement, mais on cesse de cultiver les élèves. La transmission de la culture n'est plus l'objectif de l'école. À force de réformes, sous le jet continu de ces réformes, s'est effacée sa mission essentielle.
Est-ce à dire, Alain Finkielkraut, qu'il faut revenir à un conservatisme et que vous nous proposez une alternative, une seule, le réformisme à tout craint d'un côté et un retour vers les valeurs conservatrices? Vous évoquiez Charles Péguy, c'est très beau, c'est très juste, c'est très ancien. Péguy est mort il y a 99 ans, hélas, au champ de bataille.
Il est mort, en effet, le 5 septembre 1914 à Villeroy. Un des premiers morts de
la guerre de 14.
Terrible boucherie. Peggy, 99 ans, c'est très peu de temps. Ce n'est presque rien. Alors, d'une part. D'autre part, vous me demandez, suis-je conservateur ? L'école ne peut pas être autre chose, si elle est fidèle à sa vocation immémoriale, que conservatrice. Que fait l'école ? Elle a affaire à des nouveaux venus sur la terre, les enfants. Elle les intègre dans le monde, et ce monde, même s'il change tous les jours, parce que, s'il est en proie à une multitude d'innovations qui rendent les nouveaux téléphones encore plus intelligents que les précédents, ce monde est plus vieux que les élèves. Vous les intégrez dans un monde plus vieux qu'eux. Donc, de toute façon, l'école est conservatrice, et disait Hannah Arendt, c'est précisément si elle assume cette fonction, cette vocation conservatrice, qu'elle permet à l'enfant d'exercer ses propres facultés révolutionnaires. Il ne peut commencer quelque chose de neuf si précisément il prend place, il prend pied dans ce monde plus vieux que lui. Et c'est tout cela, c'est tout ce dispositif qui est démantelé aujourd'hui sous nos yeux. Donc oui, je le répète, on scolarise encore, on scolarisera toujours davantage, mais je le dis, oui, l'école est morte. Bon, la crise, c'était hier, la mort, c'est maintenant.
Alors penchons-nous, si vous le voulez bien, un tout petit peu sur ce grand cadavre, comme on dit, et tentons l'autopsie. Aucun moyen de le ranimer, cadavre ?
Pourquoi dis-je qu'elle est morte ? Parce que ceux qui, justement, doivent en être les représentants, se retournent contre elle ou contre ce qu'il y a encore de culture dans l'enseignement. Vous voulez des exemples ? Un exemple. Le Nouvel Observateur, le Nouvel Observateur, le dernier numéro, nous parle dans... de la croisade d'une proviseure. Il s'agit d'un journal de gauche. Mmh. La croisade d'une proviseure. Cette femme qui a été proviseure notamment à Verrières-le-Buisson et dirige aujourd'hui Alerte Éducation, une SARL, avec laquelle elle fait de la formation. Eh bien, elle dit « Il faut que les enseignants soient formés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des cadres, et qu'ils fournissent un travail de cadre. » Je vous dis, c'est pas challenge, c'est le Nouvel Observateur. Mais elle emploie des termes comme leadership ou social skills, aptitudes sociales, et bien entendu, ces réformes-là sont une réalité en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Finlande. Aujourd'hui, quand vous employez le mot culture, les réformateurs sortent leur Finlande. Voilà. Pas de culture, la Finlande. Et la Finlande, c'est-à-dire recruter les enseignants moins sur leur savoir disciplinaire que sur les qualités qui leur seraient nécessaires sur le terrain.
Donc ça veut dire les recruter pour être des animateurs.
Mais oui, c'est-à-dire le dynamisme.
Plus que pour être une autorité.
Le dynamisme, le sens de la pédagogie et surtout le talent pour apprendre à apprendre. Écoutez, je suis déjà vieux, bien sûr, mais plus jeune que Peggy, quand même. J'ai survécu à la Grande Guerre. Donc, j'ai passé une agrégation. J'ai fait des études de lettres. J'ai passé une agrégation. J'ai voulu enseigner le français. Je l'ai fait, d'ailleurs, dans un lycée technique. Mais il est clair que j'ai été, fort heureusement pour moi et pour les élèves que j'ai eus, recruté sur, précisément, mes savoirs disciplinaires. Et certes pas sur ces qualité impalpable du sens de la pédagogie et du talent et du dynamisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette bouillie ? Sinon, une manière d'affirmer aux professeurs, oubliez la culture si vous voulez enseigner. Et c'est ça le marché qu'on leur met en main. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on va recréer des instituts de formation. Parce que, dit-on, je l'ai entendu ce matin, dans la bouche de Marcel Gauchet, à ma grande étonnement. Il y a des reproches à faire à Nicolas Sarkozy, Dieu sait, mais le grand reproche qui lui était fait, c'était de lancer les professeurs dans l'école...
Avec la disparition des IUFM.
Sans avoir été formés à enseigner, voilà. C'est-à-dire à créer un cadre, disponibilité à l'enseignement. Et donc, on va recréer ce cadre, on va leur apprendre le dynamisme, la pédagogie, c'est-à-dire le n'importe quoi, pour arracher d'eux l'amour qu'ils ont de leur discipline, parce que, en effet, ce n'est plus le sujet. Dès lors que l'école n'est plus l'école, ce n'est plus le sujet.
Alors attendez, Alain Finkielkraut, sur cette question précisément de savoir ce que doit être un professeur, un enseignant, comment vous, aujourd'hui, prendriez-vous un jeune homme ou une jeune femme, de 24, 25 ans qui vient d'avoir son CAPES ou son agrégation et qui doit demain être sur le terrain?
Alors, écoutez, il y a des problèmes, d'abord, qui sont posés par le terrain qu'il faudrait avoir le courage de regarder en face.
Alors, serrions-les.
Alors, on commence par le terrain lui-même et ensuite je reviendrai aux qualités du professeur, ce qui me donnera l'occasion... à mon tour, de parler, par exemple, de la princesse de Clèves. Parce que quitte à reprocher à l'ex-président de la République son hostilité à la princesse de Clèves, alors autant savoir ce que signifie la défendre vraiment. Mais parlons d'abord du terrain. Eh bien, j'ai entendu un professeur d'un lycée professionnel de Bordeaux, il y a quelques mois, en septembre. Il avait été frappé par un élève d'origine marocaine, parce qu'il avait fait, dans un cours sur les institutions, une comparaison entre la France et le Maroc, défavorable à la monarchie marocaine. Et ce professeur n'était certes pas un conservateur, il avait l'apparence du contraire, il était habillé, si vous voulez, plutôt à gauche, il était habillé entre Besancenon et Mélenchon, et il a dit, pourtant, il faut le savoir, aujourd'hui, l'enseignement est un sport de combat. Si la France allait bien, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça voulait dire, aller bien pour la France? Si la France savait qu'elle allait mal, eh bien, on se serait arrêté à cette phrase. On se serait demandé, comment se fait-il qu'un professeur, aujourd'hui, puisse dire, mon
l'enseignement
métier est
un sport
de combat.
Bah oui.
Il le dit, c'est ça pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, c'est ahurissant. Oui, il y a une violence, si vous voulez, aujourd'hui, dans les territoires perdus de la République, qui ne cesse d'ailleurs de gagner en superficie, une violence qui rend l'enseignement très difficile. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit parlait, vous savez, la grande époque du débat entre les pédagogos et les républicains.
Ça, c'était vous, d'ailleurs.
J'étais du côté des républicains
contre etc. Philippe Mérieux,
voilà.
Et les pédagogues.
Voilà. Bon. Mais,
mais c'était il y a 10 ans. Est-ce qu'on peut sortir de ces alternatives?
Mais ce débat est caduque. Pourquoi?
Ah ben voilà.
Parce que ceux-là même qui disent il faut former les élèves à autre chose, ils disent quoi? Ils disent pas la pédagogie. Ils disent pas mettre les tables en rond. Moi, j'ai fait ça, vous savez. J'ai été un pédago. Hein, je suis arrivé dans mon lycée technique et j'ai mis les tables en rond.
C'était il y a quelques années.
Pour sortir.
Si ce débat est caduque,
alors,
aujourd'hui...
Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il faut tenir sa classe. C'est une question de discipline. C'est-à-dire, si la classe ne veut pas être tenue, de toute façon, quel que soit votre dynamisme, votre énergie, vos qualités, vos social skills et votre leadership, vous n'y arriverez pas.
Donc, ça veut dire quoi? Retour de l'autorité? Nécessité de l'autorité dans la bouche du professeur?
Bah oui. Là, d'ailleurs, c'est le point sur lequel je serais d'accord avec le ministre. Je trouve qu'il a une vision un peu irénique de l'école. Et puis, moi, j'en ai marre de ces quatre jours et demi, quand l'école est en état de mort cérébrale. Est-ce que ça va durer 4 jours ou 4 jours et demi? Sincèrement, c'est pas tout à fait à la hauteur du problème. En revanche, quand il dit qu'il faut réinstaurer la morale laïque à l'école, il a raison. Il faut réintroduire ce que Orwell appelait la commune des sensis.
Ça, je sais. Mais parce que vous le dites souvent et vous l'écrivez beaucoup. Mais je vous posais la question de l'autorité. Non, mais pardon, Alain Finkielkraut, on était sur cette question-là. La morale laïque à l'école, très bien.
Oui.
L'autorité du professeur, on la restitue comment et jusqu'où?
On la restitue d'abord en faisant en sorte que l'institution le défende, au lieu de toujours, pas de vague. Pas de vague. L'institution abandonne le professeur, elle l'embête avec des tas de petites vérifications bureaucratiques, mais elle ne le défend pas. Donc, il faut que l'institution se mette de son côté. Et par exemple, l'autorité, je vais vous dire une chose très simple, le contraire de la réforme. On arrête avec la Finlande. On se tait sur la Finlande. On se tait. Je vous dis, quand on parle culture, ils sortent leur Finlande.
Alors, il y a rangez, que vous de la Finlande, là,
rangez votre Finlande. Pourquoi? Parce qu'on, mais je vais vous dire pourquoi on parle de la Finlande. La Finlande vous dit, écoutez, le redoublement. Il n'y a pas de redoublement en Finlande. C'est merveilleux, la Finlande. D'abord, je voudrais savoir exactement la situation de la Finlande face aux flux migratoires, mais pas la même situation que la France. Donc, on arrête avec la Finlande et on laisse aux professeurs le droit de décider qui peut passer ou non dans la classe supérieure. Si le redoublement est supprimé, le professeur n'a strictement aucune autorité. Ses notes ne valent rien, ses appréciations non plus. D'ailleurs, on nous dit, parce que c'est aussi le discours de cette merveilleuse proviseure, hein, il faut faire des choses pour les gamins. Et évidemment, dès que l'élève est remplacé par le gamin, lui mettre une appréciation un tout petit peu négative, c'est le heurter jusqu'au traumatisme. Quant à une mauvaise note, il ne faut pas y penser. Vous avez des fédérations de parents d'élèves, déjà, qui réclament la suppression des notes, du redoublement et des devoirs. Avec ça, bien sûr, on est absolument certain de dissoudre ce qui reste d'autorité au professeur, alors qu'évidemment, il faudrait la reconstruire.
Bon, Alain Finkielkraut, on peut arrêter deux minutes avec la Finlande et avec le Nouvel Observateur, ce journal que nous respectons tous, que nous aimons
tous.
Bien sûr,
moi je ne sais pas.
Qui est le journal qui...
C'est la proviseure en question, moi.
Voilà.
C'est Nelly Gay. Vous voyez, c'est pas le proviseur, c'est Nelly Gay.
Bon, très bien.
Le Nouvel Observateur, je m'en fiche.
Le journal qui choisit, lorsqu'il met un écrivain à la une, Marcela Yacoub. Revenons à la question de l'autorité. Je voudrais que vous nous expliquiez, car c'est vous, le philosophe, en quoi, paradoxalement, l'autorité, c'est aussi la liberté.
L'autorité, c'est aussi la liberté, parce que de toute façon, il y a de l'autorité. C'est-à-dire, autrement dit, si les adultes... l'autorité, c'est quoi? Là, je suis obligé de me référer encore une fois à Hannah Arendt, mais son article sur la crise de l'éducation de 1960 n'a pas pris une ride. Il y a des vieilles choses qui ne vieillissent pas. Et ça en fait partie. Donc, elle dit, c'est quoi l'autorité? C'est l'autre nom de la responsabilité pour le monde. Si vous ne vous sentez pas responsable, eh ben, vous branchez votre enfant devant son écran, vous en foutez. Il y a beaucoup d'adultes qui sont comme ça aujourd'hui. Et c'est pas simplement les professeurs, c'est les parents. Maintenant, vous allez au restaurant, vous allez à l'hôtel, vous avez des enfants de 3, 4, 5, 10 ans, les parents veulent avoir la paix, ils veulent être tranquilles, ils mettent dans la salle à manger l'enfant devant son Nintendo, son écran, son je sais pas quoi, et l'enfant est tranquille, complètement hébété, et on abandonne toute responsabilité pour le monde. Et quand on l'abandonne, que se passe-t-il? Eh bien, l'enfant, et même, et peut-être surtout l'adolescent, est livré pieds et poings liés à l'autorité de ses pairs, P-A-I-R-S. Ce sont les autres, c'est la tyrannie de la majorité. Et celle-ci s'exerce aujourd'hui avec une violence particulière, parce qu'elle a toute une technologie à son service. Et tous les adultes constatent la difficulté où ils sont de transmettre quelque chose du fait que l'adolescence est devenue aujourd'hui institutionnelle et même officielle. Donc, la question n'est pas de savoir... s'il faut ou non l'autorité, c'est de quelle autorité les adolescents ont besoin.
Et retour à l'autorité parentale, d'abord.
Oui, et professorale, surtout.
Et professorale, oui.
Oui, et bien sûr, retour à l'autorité professorale. Et, alors, bien entendu, un 23 ans. Il a 23 ans et 24 ans, il sort. Eh bien, justement, il est très, très énervé il y a 6 mois. Très, très énervé par l'ancien président de la République qui parlait mal français. Et il se dit, je suis très énervé, donc je vais apprendre à mes élèves à bien parler français. Et donc, il devrait être énervé par les dirigeants actuels qui n'arrêtent pas de redoubler le sujet. La France, elle va mal. La crise, elle est là pour durer. C'est les bébés qui parlent comme ça. C'est pas les présidents de la République. Donc, il se dit, le redoublement du sujet, c'est leur manière de parler. Et je vais faire en sorte, justement, de les élever vers un parler adulte. Et puisque moi, à la différence l'existence de ce président inculte ou post-culturel des années 2007-2012, j'aime la princesse de Clèves, eh bien, je ne renoncerai pas à enseigner la princesse de Clèves et j'essaierai de montrer ce que c'est que l'amour éclairé par la littérature, l'amour éclairé par le roman, pas le flot des romans et des films d'amour, non. C'est quelques livres précisément qui nous apportent un éclairage que les sciences sociales ou que l'information ne nous donne pas, et notamment la princesse de Clèves.
Donc, ne pas aller dans cette démagogie du film, de la facilité, oser aborder des thèmes difficiles par ce qui est réputé difficile à l'ère du tout numérique, c'est-à-dire le livre, et singulièrement une langue, hein, parce que la princesse de Clèves et Madame de Lafayette, c'est aussi cette langue qui
Absolument.
Avait tant choqué notre ancien
Absolument.
Président de la République.
Et c'est quoi ? Ce sont les vertus du dépaysement. Et voyez-vous, François Bunel, nous vivons une situation extrêmement paradoxale aujourd'hui. Parce qu'on nous bassine du soir au matin avec l'autre. Il faut s'ouvrir à l'autre. La fermeture à l'autre est un défaut majeur. Et on en voit des manifestations dans toutes les sondages, qui semblent montrer une sympathie du peuple pour des thèses xénophobes. Eh bien, alors oui, vive le dépaysement. C'est-à-dire, au lieu de parler aux élèves des choses qui les concernent directement, qui font partie de leur monde ambiant, les sortir de ce monde, se rappeler que la littérature, c'est le premier des exotismes. Et donc, jouer de cette altérité-là, parce que c'est quand même tout à fait paradoxal que de célébrer l'autre et de faire la chasse à l'école, à toute forme d'altérité réelle. Et c'est pourtant ce qui se passe dès lors qu'on a choisi de ne plus cultiver les élèves.
L'altérité réelle, Alain Finkielkraut, elle est également dans la mémoire et dans le plongeon, dans un autre exotisme qui est l'exotisme du passé,
Exactement.
En l'occurrence celui de la princesse de Clèves, c'est-à-dire 1559 pour
Absolument.
L'action et puis
Absolument.
1678, je crois, pour la rédaction.
Oui,
deux périodes qui sont des périodes
Exactement. Très lointaines.
De la Renaissance,
Absolument.
Naissance de
Henri II,
mais aussi...
Mais aussi la
absolue. Bah oui, enfin 1678, pardonnez-moi, c'est aussi le pouvoir absolu.
C'est
un roi.
Mais c'est l'âge classique, oui, bien sûr. C'est le grand c'est une des grandes œuvres du classicisme français. Et vous avez tout ça, et vous avez en même temps cette œuvre avec cette espèce d'énigme absolument fascinante, une femme qui, au moment où elle a la liberté d'aimer, choisit le renoncement parce que, dit-elle, il n'y a pas d'amour durable. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Ah bah tiens, alors ça, je vous pose la question, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeunes gens qui ont lu La princesse de Clèves au cours des 5 dernières années et qui tous, franchement, se posent cette question. Mais pourquoi, alors qu'il m'était impossible d'aimer l'homme que j'aime, et maintenant que la voie est libre, pour quelle raison vais-je décider de me laisser dépérir et de ne pas aller vers l'objet de mon désir.
C'est une décision, absurde, mais c'est une décision en même temps géniale parce qu'elle renvoie l'amour à sa propre fille. Elle prend l'amour au sérieux. Elle dit voilà, l'amour c'est un sentiment, mais c'est un serment. Si le sentiment n'est pas à la hauteur de ce serment, alors le sentiment ne vaut pas la peine d'être vécu. Aujourd'hui, nous nous disons très tranquillement, le serment, on s'en fout, on dit je t'aime et puis on passe à autre chose. Mais est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de trahir l'amour et le désir de maîtrise du temps qu'il y a dans l'amour, dans cette attitude très désinvolte. Et donc, ce qui est beau dans La princesse de Clèves, c'est précisément cette espèce de mise en question de notre propre désinvolture. Bien entendu, ce n'est pas un exemple à suivre. C'est simplement une interrogation sur les difficultés et la finitude du sentiment amoureux.
En réalité, La princesse de Clèves est le meilleur moyen de répondre à la question « Que signifie dire je t'aime ?»
Voilà, exactement. Exactement.
Alain Finkielkraut, on est quand même au cœur du problème que vous pointez depuis le début de cet entretien, c'est-à-dire la transmission. La transmission, c'est d'abord et avant tout, vous me l'accorderez, une question de désir. Comment créer le désir aujourd'hui ?
C'est très difficile. C'est très difficile parce que le présent n'a jamais été aussi pressant. N'a jamais enveloppé les êtres humains, et notamment les jeunes gens si fragiles, avec une telle force. Il est là partout. Et c'est un présent, si vous voulez, plein de richesses apparentes. C'est le présent du divertissement perpétuel. Comment voulez-vous enseigner aujourd'hui, dès lors que si l'élève s'ennuie, ou à peine il s'ennuie, il peut, sous la table, la petite poussette de si cher à Michel Serres, donc avec son pouce, eh ben, il peut envoyer des SMS, des messages, il peut consulter je ne sais quoi, sa page Facebook. Je ne sais même pas ce que je dis quand je dis ça, parce que de toute façon, je vois à peu près quand même. Il peut tweeter, tous ces nouveaux mots.
Alain, tous les professeurs ne sont pas laxistes et n'autorisent pas leurs élèves en cours envoyer des SMS.
Les élèves se planquent. Mais alors, bien sûr qu'ils ne tous pas, mais il leur est bien interdit de confisquer le portable. Et je suis sûr d'ailleurs que s'ils le faisaient, il y aurait encore des fédérations de parents d'élèves pour s'en plaindre.
Parce sûrement.
Certaines fédérations de parents d'élèves sont les pires ennemis de l'école et donc de leurs enfants.
Posons une hypothèse, ce problème technique est résolu dans quelques mois. D'accord ? À ce moment-là, demeure tout de même la question de fond, comment transmettre ? Je ne m'ennuie plus en utilisant, comme dirait Michel Serres, la petite poussette pour envoyer des tweets et des SMS, mais je m'ennuie en silence. Comment transmettre ? Comment véhiculer le désir ? Dans une classe, relativement sage.
Il y en a quelques-unes. De moins en moins, mais il y en a quelques-unes. D'accord.
Dans la classe...
Non,
française,
les facultés d'attention aujourd'hui sont très altérées par ces moyens de communication. Alors, je vais répondre à votre question. Une toute petite incidente quand même. Il est tout à fait extraordinaire aujourd'hui que, et j'ai entendu Vincent Payon en parler ce matin, qu'on veuille à tout prix numériser l'école, alors que non seulement on ne résoudra pas avec le numérique les problèmes qu'on n'a pas pu résoudre autrement, mais surtout que le numérique en pose de très considérables.
Pourquoi le numérique est-il un leurre à vos yeux ?
C'est un leurre, d'abord parce que c'est le copier-coller, d'abord parce que les élèves se déchargent du souci d'apprendre en tapant Google, en tapant Wikipédia, en tapant toutes ces conneries. Mais cette utilisation, elle est là comme ça. L'esprit critique, ça suffit. Ça suffit avec l'esprit critique. L'esprit critique vient ensuite. Qu'on leur apprenne d'abord à admirer, qu'on leur donne confiance dans la beauté des choses. C'est l'expérience des belles choses d'école. C'est pas
tout d'un coup.
L'esprit critique, ils l'ont, puisque de toute façon, l'esprit critique, c'est du soir au matin avec les guignols de l'info. Ça n'arrête pas de ricaner.
Pardonnez-moi, mais il me semble, je ne vous parle pas de l'esprit railleur, je ne vous parle pas de la société du sarcasme dans laquelle nous sommes entrés, de ce monde des railleurs où on se moque et où on tourne en dérision en permanence. Je vous parle de la capacité du professeur à dire, sur les 25 000 entrées que vous avez obtenues en tapant sur Google, tout ne se vaut pas et voilà comment hiérarchiser.
Alors moi j'ai ici
un
livre.
Est-ce que
ce
n'est pas ça aussi ?
Non, je veux dire pourquoi. D'abord parce qu'ils sont dedans jusqu'au cou. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est les en sortir, c'est les déconnecter. J'ai un livre qui est très intéressant, L'emprise numérique, de Cédric Biagini, aux éditions de L'Échappée. Et tout d'un coup, j'apprends dans ce livre que le directeur technique d'eBay, des cadres supérieurs de Google, Yahoo, Apple, envoient leurs enfants dans des écoles déconnectées. Seulement du papier, des stylos, des aiguilles à tricoter, parfois de la terre glaise, de bons vieux tableaux noirs, des pupitres en bois et des encyclopédies sur des essagères contribuent à l'ambiance rétro. Et ça leur coûte extrêmement cher. Ils font ça parce qu'ils ont vu les ravages. C'est Nicolas K. a écrit un livre là-dessus.
Quel est le résultat ?
L'Internet rend-il bête ?
Quel est le résultat de cette expérience ? Le retour, comme vous le disiez tout à l'heure, à une version, on va dire, un peu amiche, hein, si vous me permettez, de la vie,
amiche.
C'est-à-dire où
amiche.
On utilise... Mais non, mais quand...
Enfin, écoutez, je veux dire, je suis pas amiche, moi, regardez comment je suis habillé.
Ce que j'aime, c'est votre capacité à subir la taquinerie. Montez pas sur vos grands chevaux pour conduire votre carriole.
Je suis sur mes grands chevaux depuis tout à l'heure, parce que face à la question de l'école, on ne peut vraiment chevaucher qu'un très grand cheval.
Oui, vous avez raison, je vous pose la question suivante, quel est le résultats de cette expérience, au demeurant très intéressante, qui consiste à se déconnecter, à revenir à une société dans laquelle il n'y a plus de bidules électroniques et d'immédiateté de la pensée, mais un tableau noir et éventuellement même, ce qui n'est pas pour vous déplaire, une estrade sur laquelle siège le maître, avec peut-être une règle en bois et une certaine autorité pour dire « attention maintenant ». On y va, on
travaille. Le maître qui enseigne, ce n'est pas le maître qui opprime. Les latins avaient deux mots, magister et dominus. Et c'est un des mauvaises, c'est une des modalités de ce que Jean-Pierre Le Goff appelle l'héritage impossible de 68, que d'avoir rabattu l'une sur l'autre ces deux significations du mot maître. Donc le maître qui enseigne élève et il investit la liberté au lieu au contraire de
l'écraser.
Oui, il y a l'élévation. Donc il ne s'agit pas, si vous voulez, personne ne peut rêver de désinventer Internet. Et puis si je faisais cette proposition, je pense que j'aurais si je la soumettais comme en Suisse à un référendum, je ne pense pas que j'aurais beaucoup de voix. Donc je suis lucide sur mes capacités de persuasion. Il s'agit simplement de créer des parenthèses. Et je pense que l'école doit être une parenthèse. Si vous voulez que les enfants aient un esprit critique, comme vous dites, vis-à-vis de cet outil, faites en sorte précisément qu'ils n'y soient pas soumis toute la journée sans... Et donc, ils auront échappé à Internet, ils auront vécu autrement, et à ce moment-là, ils y reviendront plus libres. Si, à des enfants déjà immergés, vous proposez une immersion supplémentaire, alors vous n'avez aucune chance de leur donner cette distance dont vous rêvez, François Bunel.
Mais nous sommes entièrement d'accord, et vous voyez que dès que vous expliquez clairement les choses, ça y est, on est sur la même longueur d'onde. Vous évoquiez la lecture, Alain Finkielkraut, le jour choisi pour cette journée consacrée à l'école n'est pas anodin. Ce soir, ouvre le Salon du Livre de Paris pendant 3 jours jusqu'à dimanche soir. C'est la plus grande librairie de France qui va se tenir. La possibilité pour tout le monde de venir rencontrer des écrivains, mais aussi des éditeurs, mais aussi des libraires dans un pays où, hélas, les librairies ferment de plus en plus souvent, de trop souvent. Comment faire pour renforcer la lecture, pour que les jeunes lisent plus et peut-être lisent mieux ?
Lisent mieux, parce que, évidemment, le grand argument du numérique, c'est de dire, c'est le titre d'un livre paru au début des années 2000, et pourtant, ils lisent. Ils lisent autre chose, ils lisent des documents, etc. La question n'est pas de savoir. Bien entendu, les gens ne vont pas se désalphabétiser. Ils continueront à lire. Continueront-ils à lire des œuvres dans cet océan textuel qu'est Internet? L'œuvre, c'est quelque chose de terrestre. Internet, c'est quelque chose de maritime. Donc, il ne faut pas se tromper d'éléments, d'une part. D'autre part, ce que je constate aussi, parce que vous me parlez du Salon du Livre. Alors moi, je lis les journaux. Je lis non seulement le Nouvel Observateur la semaine dernière.
Mais vous lisez Le Monde,
je vois. Mais même Le Monde.
Formidable.
D'aujourd'hui. Et dans Le Monde d'aujourd'hui.
Quel progressiste.
Mais bien sûr, vous voyez, je n'ai que des bonnes lectures.
Très bien.
Je n'ai que des bonnes lectures.
C'est quoi la une du Monde des Livres ?
Alors, non, c'est la une du Monde des Livres, c'est sur le carnaval roumain. Il y a un très bel article de Claudio Magris sur Norman Manea.
Eh bien, lisez Norman Manea, grand écrivain.
Oui.
Immense écrivain. Vous avez lu Le Retour du Hooligan ?
Que j'ai rencontré il y a longtemps et que j'ai revu il y a quelques jours aux États-Unis pour l'anniversaire de Philippe Roth. Et nous arrivions à Paris dans le même avion et j'espère le voir ici pendant son séjour. Mais il y a deux pages débat consacrées à ce sujet très intéressant. Quelle littérature enseigner aujourd'hui ? Et là, évidemment, comme on disait, je crois, à Constantine, les bras m'en tombent des pieds parce que vous avez un auteur qui est professeur de littérature française qui demande des romans adaptés à notre temps.
Oula.
Et il dit, si l'œuvre d'un Émile Zola demeure essentielle à notre culture, elle est moins emprise avec les réalités sociales ou professionnelles mondialisées, et son naturaliste l'aurait moins formellement ajusté que tel livre de François Bon, de Marie-Lie de Carangal, de Michel Vinaver, d'Annie Ernaux ou de Lydie Salvert. Alors là, on a envie de dire, mais ça suffit, ce n'est pas le rôle de l'école. Ce n'est pas vrai. Le présent est là, on y est, parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement, mais on a des moyens d'y échapper pour y revenir plus intelligent, et c'est précisément l'école qui doit être un de ses moyens. Et dans un autre texte...
Ça veut dire clairement retour au classique.
Et bien sûr, mais il y a des classiques, il y a des classiques contemporains aussi. Mais si vous n'enseignez pas les classiques à l'école, ben ça veut dire que... Les enfants,
tout le monde est d'accord.
Les enfants n'y reviennent. Ben non, la preuve que non. Enfin, les enfants n'y reviendront jamais. Et sinon, et en plus, enseigner, il faut savoir ce que ça veut dire, parce que vous avez un autre professeur que je crois est assez connu, qui s'appelle Yves Citon, qui explique que la transmission aujourd'hui, c'est une performance de chaman. Et cette performance est à la fois sportive, mystique, théâtrale et chorégraphique. Mais non, pas du tout. Là, c'est beaucoup plus humble que ça. Vous vous mettez au service de la vérité dont le texte est porteur. Alors quand vous voyez des professeurs eux-mêmes délirer complètement autour de cette fonction très simple, comme un certain nombre de metteurs en scène de théâtre d'ailleurs, eh bien, vous vous dites qu'effectivement, la littérature est mal défendue et que la belle et si simple définition de Peggy ne s'applique plus parce que les professeurs eux-mêmes ont décidé de s'en séparer.
Et en même temps, tout dépend de l'endroit vers lequel vous voulez tourner le regard, Alain Finkielkraut. Je ne connais pas le monsieur Citon dont vous nous parliez tout à l'heure. Pourquoi ne pas tourner les yeux, par exemple, vers quelqu'un comme Michel Tournier, qui est enseigné, lui, me semble-t-il, dès la 6e et jusqu'aux classes préparatoires, et qui disait, dans un très beau livre, qui est un livre de dette, dans lequel il cite uniquement des classiques, « Lire rend heureux et intelligent ». C'est aussi simple que ça, finalement.
Est-ce que
vous la reprenez à votre compte,
oui,
cette
définition ? Oui, encore qu'il ne faut pas non plus charger trop la barre. Parce que quand vous êtes malheureux, vous êtes malheureux. Et la lecture ne vous rend pas plus heureux que ça.
Vous croyez ?
Ah oui, c'est-à-dire que...
Qui disait « il n'est pas de malheur qu'une heure de lecture n'est dissipée » ?»
Moi, malheureusement, non.
Vous, oui. Voltaire, si.
Voltaire, il a de la chance, mais je ne sais pas. Quand on souffre amoureusement, la lecture peut entretenir cette souffrance. Et quelquefois, il est bon de l'entretenir. Elle peut aussi entretenir le deuil.
On revient à la même chose quand même. Admettez tout de même que tout dépend de vos lectures.
Mais ça rend pas heureux.
Je vous donnerai 2-3 livres qui rendent un peu moins malheureux ou qui n'entretiennent pas. Que la lecture ne console pas, que la lecture ne soit pas uniquement un divertissement, je vous l'accorde, ne peut-elle à un moment créer non pas seulement un cœur intelligent, pour reprendre le titre du très beau livre que vous aviez écrit, mais créer un cœur heureux ?
Je n'irai pas si loin. Il y a évidemment, quand on a une disponibilité suffisante, effectivement, la lecture procure un plaisir tout à fait extraordinaire, et un plaisir qui peut quelquefois naître de la difficulté d'un texte qui vous emporte, mais aussi qui vous résiste, et aussi qui vous transporte hors de vous-même, hors de votre temps, et qui vous y ramène effectivement un peu éclairé. Mais pour dire un dernier mot sur cette question du passé du conservatisme, vous citiez Michel Tournier. Moi, je voudrais citer Simone Veil, la philosophe. Il y a une phrase absolument magnifique. Parce que vous disiez, quel enseignement pour demain ? Bon. Eh bien, l'opposition, dit Simone Veil, entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé.
C'est
magnifique.
Dans quel livre ?
Je pense que c'est dans l'Enracinement.
Très bien.
Et c'est ce besoin que visait à combler l'école, et c'est ce besoin dont l'école d'aujourd'hui et de demain cherche à nous priver.
Musique, voici Pink Floyd, tiens.
We don't need no thought control.
Alain Finkielkraut, c'est vraiment pour vous hein, que je ne diffuse pas en entier Another Brick in the Wall de Pink Floyd et que j'interromps le solo magistral de David Gilmour. Ne riez pas, c'est aussi de la culture.
Mais j'aime bien les Pink Floyd, c'est pas tout à fait ce que j'aurais choisi pour une émission comme celle-là, mais je n'ai rien contre les Pink Floyd.
We don't need no education, nous n'avons pas besoin d'éducation. J'aime bien vous provoquer un tout petit peu. Je voudrais qu'on revienne à un point que nous avons abordé, mais puisque nous arrivons à la fin de cette émission, conclure avec ce point. Dans une démocratie, vous me l'accorderez, ce qui est important, c'est aussi ce que nous appelons la culture générale. Il semblerait que la formation de l'élite, notamment à Sciences Po, ne soit pas de cette opinion. Quand on parle de culture générale, Alain Finkielkraut, vous qui enseignez, notamment à Polytechnique, que veut-on transmettre à nos enfants ?
Oui, c'est en effet une question extrêmement difficile. On veut transmettre à nos enfants, la culture générale, c'est essentiellement la littérature, la philosophie, l'histoire. Alors bien entendu, il y a aussi la culture scientifique, mais dans les humanités, ce sont les trois grandes disciplines. Voilà ce sur quoi il ne faut pas céder, mais ne pas céder, cela veut dire se donner les moyens de transmettre. Or, ce qui nous en empêche aujourd'hui, c'est cette espèce de climat de sollicitude dans lequel nous sommes pris. Sollicitude pour les gamins. Il ne faut, dit-on, laisser personne sur le bord du chemin. Il y a une sorte, si vous voulez, de grande vague humanitaire qui est en train de submerger l'école et d'en chasser l'humanisme au sens que le mot avait pris à la Renaissance. Le détour par les textes.
Contre l'humanisme.
Oui, l'humanitaire contre l'humanisme, puisque, par exemple, j'ai parlé du redoublement, mais à partir du moment où vous dites, attention, les gamins, donc, vous décider que le plus défavorisé doit pouvoir suivre, et pour qu'il puisse suivre, il faut ralentir le rythme. Et donc, finalement, aligner la classe tout entière sur ses besoins et sur ses possibilités. C'est comme cela que l'on se défait peu à peu de la mission et de l'ambition initiale de l'école. Vous voyez bien que, par exemple, l'émulation a complètement disparu. On confond aujourd'hui non seulement le maître qui enseigne et le maître qui opprime, mais aussi l'émulation républicaine et la compétition libérale.
Ce paradoxe dans une société où tout est compétition,
oui, c'est ça,
par ailleurs.
L'émulation, vous vous souvenez, moi, je n'ai pas d'affection particulière pour la plume sergent-major, encore qu'il ne faut pas trop me pousser. Mais il y avait des distributions des prix. C'est-à-dire, ce n'est pas honteux d'avoir un prix. Et ça pouvait être une stimulation, une émulation. Aujourd'hui, ce serait une humiliation pour ceux qui n'en ont pas. En plus, on donnerait des livres à des élèves qui n'en auraient que foutre. Ils diraient, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, etc. Donc, dès lors, précisément, que vous remplacez l'émulation par cette espèce d'égalitarisme de la sollicitude, alors précisément, vous ne vous donnez plus les moyens de transmettre cette culture générale. Elle est moins difficile à définir que difficile, précisément, à enseigner. Parce que bien sûr, il y a des gens qui y adhèrent, il y en a d'autres qui résistent, c'est une loi à laquelle notre sens de l'égalité ne veut pas se résigner, et dès lors, précisément, c'est la culture qui en souffre. On a voulu mettre toute une classe d'âge au niveau du bac, on a mis le bac au niveau de toute une classe d'âge. C'est une substitution qui relève de l'imposture.
Mais qu'est-ce qui est le plus important ? C'est d'enseigner la princesse de Clèves à des élèves à Polytechnique ou de l'enseigner dans les quartiers nord de Marseille ?
Écoutez, dès lors que
la question est celle qui se pose
aujourd'hui. Dès lors que vous êtes dans l'enseignement général, il faut pouvoir l'enseigner partout. Alors, cela étant, je pense qu'il faut aussi pouvoir développer assez tôt, et plutôt qu'on ne le fait aujourd'hui, des filières professionnelles. Mais pour enseigner la princesse de Clèves dans ces quartiers de Marseille dont vous parlez, ou dans le 9-3, eh ben, il faudrait qu'il soit possible d'enseigner tout court. Et il est clair que c'est aujourd'hui de plus en plus délicat. Mais il ne faut pas renoncer à enseigner la princesse de Clèves dans les quartiers nord de Marseille.
On ne renonce pas. Alain Finkielkraut, vous évoquiez tout à l'heure les États-Unis et Philippe Roth. Actuellement, les États-Unis, dans certains États, notamment la Californie, viennent de rendre optionnel l'apprentissage de l'écriture cursive. Si on fait cela en France, qu'est-ce qu'on en
court ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire qu'on n'enseigne plus l'écriture cursive. Voilà, c'est parce une option. Que... On enseigne dorénavant l'écriture sur ordinateur.
Mais oui, mais je pense qu'on y va. Hein.
Quel est l'enjeu ?
Je pense, si vous voulez, que l'enjeu... Disons, on peut dire que, après tout, si on sait écrire sur un ordinateur, on sait écrire. Sauf que l'enjeu, ce serait simplement de donner aux individus la possibilité de ne pas être aliénés 24 heures sur 24 à leur écran. C'est ça. Par l'écriture cursive, ils peuvent... Ils ne vivent pas dans la proximité. Vous voyez, mais parce qu'on les voit quand même, les gens, avec leur écran. On les voit aujourd'hui dans le métro et dans l'autobus. Il y a l'horreur du téléphone, des gens qui se parlent, etc. Alors qu'on n'a pas besoin qu'ils déversent sur les autres leur vie privée. Mais il y a aussi ces visages hébétés de gens qui sont en train de consulter leurs messages ou de taper des SMS sur leur smartphone des heures durant.
S'ils lisaient dans le bus à côté de vous, Némésis de Philippe Roth sur une tablette oui, numérique, quelle tête tireriez-vous?
Je dirais, tant pis. Enfin, je ne m'y oppose. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de passer des SMS. Je pense quand même qu'il y a une matérialité du livre aussi à laquelle on ne doit pas renoncer. Ce qui est beau dans l'écriture cursive, ce qui est beau, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est une plume sur une feuille et la feuille résiste. On est encore dans un monde matériel. Il y a des choses. L'écran, ça nous fait passer dans un monde de non-choses. Il faut qu'il y ait encore des choses pour que le monde soit agréable à vivre.
Éloge de la résistance, donc, par Alain Finkielkraut, résistance dans tous les sens du terme. Dites-moi, l'école est morte, vous l'avez dit, Alain Finkielkraut. Mais
tout le monde n'est pas d'accord avec mon diagnostic.
Mais je reste sur le vôtre de diagnostic. Cela dit, vous savez mieux que moi et d'expérience qu'il y a des morts cérébrales dont on revient.
Eh bien, écoutez... je vous ai dit.
Est-ce que France... le grand cadavre à la renverse est mort cérébral?
Moi, je ne.
Ou est-ce qu'il est mort définitivement?
Je n'utiliserai pas cette expression parce que c'était l'expression que Sartre avait employée pour qualifier la gauche.
Et ben, c'est précisément pour cette raison que je l'emploie.
Parce que Sartre pensait que la gauche n'était pas assez tiers-mondiste et révolutionnaire, ce qui, à mon avis, était un.
Vous gagnez du temps, il nous reste 10 secondes.
Alors, moi.
Pessimiste, jamais?
Non.
Ah.
Je cesserais d'être pessimiste si on consentait à ouvrir les yeux. La France ira mieux quand elle saura qu'elle va mal.
Ouvrons les yeux. Merci beaucoup, Alain Finkielkraut. Voilà, le grand entretien. Merci Anne Kobilac pour la réalisation. Thierry Dupin pour la programmation musicale. Les Pink Floyd, Vanina Scalia, Grégoire Louis, assisté de Céline Laurence pour la préparation de cette émission. Éric Morin et Michel Bézikian à la technique. Et demain, nous serons au Salon du Livre de Paris, Alain Finkielkraut, avec comme invité Carlos Ruiz Zafón, exceptionnel écrivain castillan, l'auteur, vous devez avoir lu ça, du cycle du cimetière des livres oubliés. L'ombre du vent, ce sont des libraires, et c'est une sorte d'Umberto Eco espagnol. À 18h20, vous avez rendez-vous avec Marc Fauvel pour une émission spéciale, en direct et en public du studio 105 de la Maison de Radio France. Marc Fauvel, donc, accompagné par Marilyn Baumard, responsable du pôle éducation au journal Le Monde, Emmanuel Davier, spécialiste de l'éducation à France Inter, recevront Jack Lang, l'ancien ministre de l'éducation, et Valérie Pécresse, l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.